L'invité du journal ce matin est un homme visiblement en colère. Bonjour Philippe Val.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur les ondes de la Première en direct de notre studio de Paris. Ancien directeur de Charlie Hebdo, bien sûr, ancien directeur de France Inter, journaliste, animateur de radio, humoriste. Et la colère dont je parlais à l'instant s'exprime notamment dans votre dernier ouvrage intitulé « Malaise dans l'inculture », référence à un fameux essai de Freud qui mettait en scène le combat entre les pulsions de vie et de mort, « Malaise dans l'inculture », qui s'attaque à ce que vous appelez l'idéologie du ressentiment et à sa version médiatique, le « prêt à s'indigner », qui s'attaque aussi un peu au journalisme et aux journalistes d'aujourd'hui, dont vous dites qu'elle est une profession pleurnicharde. Alors, durant ces 25 minutes, on va tenter de ne pas jouer les pleureuses avec vous, Philippe Val, et de comprendre ce que vous dites dans cet ouvrage. Ancien patron de Charlie Hebdo, évidemment, première question qui porte sur ça. Vous aviez terminé votre ouvrage quelque temps d'ailleurs avant les attentats de Charlie Hebdo et l'hypercachère, donc c'était début janvier. Vous avez ensuite complètement réécrit le préambule avec un bel hommage aux victimes, notamment à votre ami Cabu. Vous avez été terriblement marqué par ces événements. Philippe Val, est-ce que la douleur aujourd'hui est encore aussi vive qu'à l'époque ?
La vie n'est plus pareille. Ça faisait presque 40 ans, 35 ans que Cabu et moi on marchait côte à côte, donc on a remonté Charlie Hebdo ensemble, tous les deux. Plus rien n'est comme avant et plus rien ne sera jamais comme avant. Cabu était une personnalité exceptionnelle. Bon, outre que c'était un ami proche, c'était un dessinateur de génie et un homme d'une qualité irremplaçable.
Alors plus rien ne sera jamais comme avant. Comment, attaquons tout de suite le vif du sujet, si vous êtes d'accord, comment recevez-vous, Philippe Val, la lecture qui est faite avec 4 mois de recul par certains sur la réaction de masse qui a suivi ces attentats? Évidemment, vous me voyez venir, on va parler d'Emmanuel Todd, qu'on recevait d'ailleurs sur cette antenne il y a quelques jours, qui lui, par rapport aux manifestations du 11 janvier qui ont suivi la tuerie, parle de moments d'hystérie, d'imposture, ou pour reprendre un terme psychanalytique qui vous est cher, d'épisodes de fausse conscience. Que répond Val à Todd ?
D'abord, il aurait pu se fendre d'un mot de compassion pour les victimes, ce qu'il n'a pas fait. Je ne sais pas sur quelle planète il vit. Ensuite, il y a quelque chose qui, pour un intellectuel, me semble pour le moins étrange, c'est que 4 ou 5 millions de personnes sont descendues dans la rue, ceux qui étaient pas trop loin des villes où il y avait les manifestations, parce que beaucoup de gens dans des villages, dans des bourgs auraient voulu venir, auraient voulu se déplacer, et dans leur cœur, c'est beaucoup plus de 4 millions de Français qui ont défilé. Et puis, ils ont décidé de brandir des panneaux, des pancartes pour dire « je suis policier, je suis juif, je suis Charlie ». Il y avait quelque chose, donc un retour à une pensée universaliste chez ces gens troublés qui avaient mal à un endroit intime de leur vie devant ces événements. Et Monsieur Todd, tout d'un coup, a mis ces 5 millions de personnes sur le divan et leur a dit « mais vous n'êtes pas du tout tout ça ».
Il parle d'une terrible hypocrisie, lui. Hein,
vous n'êtes pas du tout ce que vous dites. Vous êtes une bande de zombies catholiques. Mais de quel droit s'arroge-t-il pourquoi s'arroge-t-il le droit de parler au nom de l'inconscient de ces gens? Et comment fait-il pour savoir ce qu'il y a dans l'inconscient de ces gens? J'ai rarement vu une imposture intellectuelle aussi obscène et aussi peu relevée. Ce livre est quelque chose de terrible. Enfin, c'est nier aux gens qu'ils sont. Enfin, vous dites, c'est ne pas juger les gens sur ce qu'ils font, mais sur ce qu'ils sont, ce qui est le béaba du racisme. Dire aux gens, mais non, vous n'êtes pas ce que vous dites, vous n'êtes pas ce que vous faites, vous n'êtes pas ces gens qui défilaient dans la rue pour une idée fraternelle et universaliste, vous êtes autre chose. Ça veut dire que on ne juge plus les gens sur ce qu'ils font, mais sur ce qu'ils sont. C'est horrible de faire ça. C'est le béaba de tous les racismes. Ce livre est d'un mépris, d'une vanité qui est quand même assez stupéfiante.
Alors,
mais qui est Todd pour pouvoir se permettre un pareil jugement de valeur sur des millions de gens?
Alors Todd est un grand démographe, sociologue, intellectuel.
C'est un grand con surtout.
Dites-vous, oui.
Je dis, mais
ce sont des propos
possible.
Qui n'engagent que vous, mais vous allez quand même assez loin et vous répondez par l'insulte. Non, enfin, est-ce vraiment la bonne manière, aucune... Philippe Vannes?
Non, je retire ce mot. Je retire ce mot, mais il m'a échappé, je le regrette. Mais c'est quelque chose d'obscène de parler aux gens comme ça.
Est-ce que vous en avez
Pourquoi
parlé avec lui?
La foule
est-ce que vous avez
Je vais bientôt en parler avec lui, puisque je vais faire un débat avec lui. Mais c'est quelque chose je ne comprends même pas que la réception de ce livre soit aussi forte, qu'il y ait aussi de tolérance, qu'il y ait autant de tolérance pour ce livre, qu'il y ait autant de complaisance, je voulais dire,
alors,
pour ce livre.
Peut-être parce qu'il parle aussi à certaines personnes. Vous parliez de racisme, ce qui est assez intéressant dans l'ouvrage de Todd, et on va pas parler que de Todd, hein, je vous rassure, pendant ces 20 minutes, mais lui voyait, et je raccourcis un peu son propos, mais c'est quand même ça qu'il dit, il voyait dans ses manifestations du 11 janvier quelques ferments de la France islamophobe, c'est ces fameux catholiques zombies, mais qui au fond rejettent l'islam. Et vous le dites aussi dans votre ouvrage, c'est une phrase, je ne l'extrais pas de son contexte, c'est assez clair pour être lu comme ça, un certain islam fait peur à juste raison, dites-vous, Philippe Vall. Alors, soyons concrets, quel islam fait peur aux Français?
Vous avez entendu parler de Boko Haram?
Oui.
Vous avez entendu parler de Daesh?
Ça, c'est de l'islamisme, c'est pas de l'islam.
Oui. C'est une partie de l'islam qui s'est radicalisée. Vous avez entendu parler des frères Kouachi, vous avez entendu parler de Mohamed Merah, vous avez entendu de tout ça.
Vous mettez tout le monde dans le même panier, djihadistes, islamistes, musulmans. L'islam, ce n'est pas ça.
Mais bien sûr que non. Je dis qu'il y a une partie de l'islam qui s'est radicalisée et qui, à juste titre, fait peur.
Oui.
Et cette partie de l'islam politique, de l'islam radical, de l'islam, elle fait peur, bien sûr. C'est la moindre des choses, puisqu'ils sont responsables d'attentats au Danemark, d'attentats à New York, d'attentats à Madrid, d'attentats à Paris. Enfin, mais pourquoi ne pas regarder ça en face et pourquoi ne pas travailler avec nos concitoyens musulmans sur une version de l'islam qui soit vraiment compatible avec le droit commun, avec la République, avec la démocratie? C'est tout ce que je demande, c'est un dialogue fraternel avec nos concitoyens musulmans qui nous permettent de nous débarrasser de cette résurgence du nazisme, parce que c'est tant d'années après 1945, 70 ans après 1945, on voit des gens ressortir de chez eux avec une arme lourde pour tuer des enfants parce qu'ils sont juifs. Qu'est-ce que c'est d'autre qu'une résurgence chaotique de l'idéologie nazie?
Et face à cela,
Il faut regarder cela en face.
Et on n'assume pas ses responsabilités, Philippe Vall, la France d'aujourd'hui, face à ce nouveau nazisme, n'assume pas ses responsabilités. C'est ce fameux sociologisme dont je parlais, c'est-à-dire
Absolument. On
accuse le système de tous les maux et au fond, l'individu ne peut plus rien.
Pour rien.
C'est l'explication de ça.
Le système n'y est pour rien. Le système n'est pour rien pour la raison que si le système y était pour quelque chose, parce que le système, ça veut rien dire. Le système, il n'est pas pareil en Angleterre, pas pareil au Danemark, pas pareil en Espagne, pas pareil au Mali, pas pareil au Kenya, pas pareil au Pakistan, différent encore en Afghanistan et en Iran. Vous vous rendez compte que tous ces pays sont des systèmes extrêmement différents, l'Arabie Saoudite, le Moyen-Orient, et que c'est produisent la même chose, ça veut dire que ça dépend pas du système, ils produisent ce même islam radical. Si c'était le système, ils produiraient d'autres choses.
Que dire de cette France d'aujourd'hui qui produit les frères Kouachi?
Je veux dire que
qui produit les frères Kouachi? Si ce n'est pas une question
c'est
de système, d'où sont-ils issus, Philippe Vall?
Ils sont issus d'un choix personnel, qui est un choix politique et culturel et religieux, qui n'est pas le produit de la société française, ni de la société suisse, ni de la société... Ce sont toujours les états de droit qu'on finit par accuser d'être coupables des attentats dont ils sont les victimes. C'est comme dans les procès de viol, quand autrefois on disait aux filles « Ah bah, c'est de votre faute, vous avez mis du rouge à lèvres et une jupe courte ». C'est toujours les états de droit qui sont accusés alors qu'ils sont outragés et qui sont blessés. On leur dit « Ah mais c'est quand même de votre faute ». On n'accuse jamais d'autres régimes, on n'accuse pas des régimes totalitaires, on n'accuse pas l'Iran, on n'accuse pas le Pakistan, on accuse toujours la France, l'Allemagne, les États-Unis, c'est-à-dire les États qui respectent respecte les libertés publiques et qui respecte la vie privée et qui respecte la liberté d'aller et de venir et de s'habiller comme on veut. C'est sur toujours les, on a appris, le sociologisme dont je parle dans mon livre nous apprend à détester les états de droit, c'est-à-dire ce qu'il y a de meilleur sur la planète.
Et d'ailleurs ce sociologisme,
mais réapprenons un peu à aimer nos états de droit. Ils sont impurs, c'est sûr qu'ils ne sont pas parfaits, mais c'est pas eux qui produisent ça. L'idéologie extrême dans l'islam est produite par l'idéologie extrême de l'islam, elle est cause d'elle-même.
Oui. Mais alors
ça
comment,
n'est plus la colonisation, il n'y en a plus depuis 50 ans.
Mais alors comment résoudre ce problème-là, si ce n'est évidemment...
Par le dialogue.
Par des mesures policières.
Déjà, quand ils sont radicalisés et qu'ils versent dans le terrorisme, c'est la police et la justice qui doit faire son travail. Et à l'intérieur de nos sociétés, c'est un travail de dialogue, un travail qu'on doit faire avec l'éducation nationale, c'est un travail qu'on doit faire avec nos concitoyens français de confession musulmane. Comme les autres grandes religions ont fait, elles se sont adaptées à l'état de droit et ont accepté que le Dieu était un Dieu personnel et que la loi était commune, au contraire. La loi démocratique est commune et le Dieu est personnel. C'est tout ce qu'on demande à l'islam. Moi, que les gens soient musulmans ou chrétiens ou juifs ou bouddhistes, moi personnellement, ça ne dit rien d'eux pour moi. Suppose pas une essence particulière en fonction de leur sexe, de leur religion, de leur âge ou de leur provenance.
À propos de la liberté d'expression, Philippe Val, vous avez publié comme rédacteur en chef de Charlie Hebdo les fameuses caricatures à l'époque. C'est quoi votre conception de la liberté d'expression ? Est-ce qu'elle n'a pas ses limites justement, notamment lorsqu'elle s'en prend à l'état de droit ?
Mais bien sûr que si, la liberté d'expression en France notamment est encadrée par des lois qui sont des bonnes lois pour la bonne raison. Enfin, j'ai eu 25 procès ou 20 devant la 17e chambre correctionnelle spécialisée dans ces causes-là et je trouve, et même quand je pense que j'ai été très peu condamné, je pense que j'ai pratiquement jamais été condamné, mais en attendant, je trouve que ce sont des lois protectrices. Et les propos antiracistes, on sait bien qu'ils sont ou homophobes, ou antiféministes, ou antisémites, sont performatifs et sont pénalisés. Alors, ce ne sont pas des très graves peines, ce sont des amendes. En général, la Chambre est très protectrice de la liberté d'expression, donc ça ne va jamais très loin. Mais au moins, la République dit qu'elle n'en veut pas. Et je pense que c'est une bonne chose. Je pense que l'incitation à la haine raciale doit relever du pénal.
Est-ce qu'on n'incite pas un peu à la haine en publiant des caricatures du prophète ?
Mais pas du tout, parce que le prophète est un personnage historique, est un personnage à la fois légendaire et historique. On doit pouvoir tout dire d'une religion et on doit pouvoir respecter les croyants. Les choses de l'esprit ne sont pas pareilles que des êtres humains. Les choses de l'esprit doivent pouvoir être critiquées, les êtres humains doivent pouvoir être respectés. Et c'est deux choses très différentes. Quand on nous dit, par exemple, deux poids, deux mesures, on peut critiquer l'islam, mais on peut rien dire sur la Shoah, mais c'est complètement débile, puisque la Shoah, ce sont des gens qui sont morts, dont il faut respecter la mémoire, et que l'islam, ou le judaïsme, ou le christianisme, sont des corpus d'idées qui forment des religions. La moindre des choses dans une démocratie, c'est de pouvoir exercer son sens critique sur les corpus d'idées.
Philippe Val, vous l'avez dit en quelque sorte, on a un peu perdu le sens du bonheur aujourd'hui en France, dans la France d'aujourd'hui. À qui la faute ? Vous n'êtes pas tendre avec la gauche, quand même, avec la gauche de 2015. C'est d'ailleurs ce qui vous relie à Todd et à Michel Onfray, c'est que vous tapez tous les trois sur ce qu'est devenu la gauche aujourd'hui.
Il n'y a rien qui ne me relie à Todd.
Oui, à part que vous tapez aussi sur François Hollande. Ça vous relie à Todd et à Michel Onfray.
Je tape très peu sur François Hollande.
Un petit peu sur la gauche d'aujourd'hui quand même.
Oui, enfin, j'exerce un minimum de critique parce que je pense que quand il parle de la finance comme d'un monstre sans yeux, sans tête, etc., je trouve que c'est une mauvaise figure rhétorique parce que elle relève, si vous voulez, c'est celle qui est utilisée dans le complotisme, etc. Je pense qu'il a fait une erreur en s'exprimant, en utilisant ces mots-là dans sa campagne. Maintenant, l'objet de mon livre n'est pas de critiquer spécialement ni François Hollande, ni Nicolas Sarkozy, ni je sais pas qui. C'est pas un livre qui s'attaque aux personnes, sauf quand elles incarnent une idée.
Vous êtes toujours de gauche, Philippe Val, aujourd'hui ?
Oui, moi je me sens, j'ai jamais, je pense que je suis une espèce de social-démocrate modéré et libéral sur le plan des mœurs notamment, et sur le plan du progrès des libertés. Je suis pour le progrès sans cesse des libertés, je suis pour une régulation sur le plan économique, je ne suis pas du tout un expert en économie, rassurez-vous, mais voilà, maintenant on me dit, ah t'es plus de gauche, mais c'est pareil que Todd, qui dit aux gens, vous n'êtes pas ce que vous dites. Mais qui on est aujourd'hui, dans quelle société on est pour dénier aux gens ce qu'ils sont alors qu'ils disent qu'ils sont quelque chose ou qu'ils... Vous voyez, juger les gens pour ce... il faut juger les gens pour ce qu'ils font, pas pour ce qu'ils sont. Sinon, on va se mettre à juger les gens parce qu'ils sont arabes ou juifs ou chinois ou homosexuels ou femmes. Vous vous rendez compte que c'est absolument tabou en démocratie.
Alors justement,
c'est ce que fait Todd est tabou en démocratie.
Ouais. C'est pour ça qu'il est autant critiqué.
Si ça plaît aux gens, bah grand bien leur fasse. Ça veut dire que la démocratie ne leur plaît plus. Ont-ils déjà vécu dans une dictature ? Moi, j'ai fait quelques années de reportages à travers le monde.
Là, vous lui faites un procès d'intention. Il n'appelle pas la dictature de ses vœux, quand même.
Non, mais juger les gens pour ce qu'ils sur ce qu'on prétend qu'ils sont, c'est déjà une démarche totalitaire.
Ouais, le médecin peut aussi vous révéler une maladie que vous ignorez. Hein. Ça, c'est aussi la position d'un Todd, qui révèle aux gens peut-être ce qu'inconsciemment ils font. On ne peut pas réfuter cette démarche.
Non, mais inconsciemment, ce qu'inconsciemment ils sont. Mais il n'est pas le psychanalyste d'une foule, enfin. Mais où on va ? Qu'est-ce que c'est que cette espèce de transparence de l'autre ? C'est totalitaire de dire ça.
Alors,
c'est d'un irrespect absolu.
Philippe Vallon.
Mais philosophiquement, c'est totalement antidémocratique. Comment on peut ne pas voir ça ? Ouais. C'est ça le malaise dans l'inculture aujourd'hui.
Alors,
c'est qu'on peut se payer n'importe quoi, c'est open bar avec les gens. C'est quand même grave, quoi. Et en plus, c'est gratos, quoi.
Oui.
Y a pas de sanction. La sanction, c'est qu'on vend des milliers de bouquins.
Non, mais c'est Zemmour en vend beaucoup aussi, etc. Philippe Vallon.
Qu'est-ce que vous voulez?
Et vous, peut-être aussi. Votre bouquin vient de sortir. Alors, Philippe Vallon, on parlait de François Hollande, on parlait de la France d'aujourd'hui. On va parcourir quelques sujets issus de la presse helvétique, mais qui nous ramènent aussi à la discussion du jour. On a ça dans la presse alémanique. Patrick Chaboudet, les dépenses d'armement sont en forte hausse dans les pays du Golfe et la France n'est pas très loin.
Oui, c'est un commerce dangereux pour la NZZ. Les exportations d'armes vers les pays du Golfe ne sont en aucun cas une garantie de la stabilisation de la région. Elles ne font que renforcer les régimes absolutistes, celui de Riyad notamment. L'Arabie Saoudite détient le record en matière de hausse de dépenses militaires l'année dernière, plus 17%. Et personne, nous dit le quotidien, ne devrait se faire d'illusions sur la politique de sécurité du régime saoudien. La NZZ qui épingle également le président français avec ce titre ironique, François d'Arabie. La France s'est profilée ces derniers temps comme un allié loyal des monarchies du Golfe qui récompense ce soutien à coups de contrats d'armement pour des milliards d'euros.
Alors là, on est dans le vif du sujet de la politique actuelle du gouvernement Hollande. François d'Arabie, comment voyez-vous, Philippe Vall, comme journaliste, comme écrivain, ces contrats passés avec l'Arabie Saoudite, avec le Qatar, on vend des Rafales, etc. Est-ce que c'est pas un peu obscène ça aussi ?
C'est que je pense que politiquement c'est peut-être juste inconscient, parce que qui peut dire qui sera au pouvoir dans 10 ans en Arabie Saoudite? Ce sont des pays qui professent une détestation absolue des états de droit, qui traitent les femmes et les homosexuels, qui traitent les chrétiens par le crime, en gros, en les assassinant, en les lapidant, les enfermant. Et ce sont des gens qui vouent une haine fondamentale à tout ce que représentent les états de droit, et on leur vend des armes extrêmement puissantes, et on ne sait pas dans 15 ans, dans 20 ans, ce qu'ils vont en faire. Je pense que on pourrait au moins, avant de vendre des outils de mort comme ça, qui peuvent, les gens, les états ont peut-être le droit, après tout, de se constituer des armées pour se défendre, mais on pourrait quand même essayer d'exiger un minimum de garanties qui ne vont pas nuire plus tard. Est-ce que tout ça va pas nous retomber dessus un jour, quoi? C'est la question qu'on peut quand même se poser. Je dis pas qu'ils le feront, mais la question n'est jamais posée. On sait très bien que ce sont des pays claniques, où il y a avec des structures claniques, ce sont pas du tout des démocraties, et que certains clans dans ces pays-là, qui sont des clans extrêmement puissant, finance le terrorisme international. Donc, c'est très inquiétant de leur faire confiance à ce point, au point de leur donner des armes qui sont des armes de pointe, ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur Terre pour attaquer un autre pays.
Alors, autre sujet qui concerne la Russie et l'Ukraine, et d'ailleurs, vous parlez notamment des fans de Poutine dans votre ouvrage, vous n'êtes pas tendre avec ceux qui le soutiennent. D'ailleurs, il y a une certaine tendance à soutenir Poutine aujourd'hui, y compris en Suisse. Alors, ça fait plus d'une année que l'Ukraine orientale est déchirée par la guerre. Patrick Chaboudet, reportage à Donetsk, c'est-à-dire dans le Tagessanzeiger.
Oui, avec une vision plutôt sombre du quotidien dans une ville fantôme, c'est le titre de l'article. Photos de chiens errants dans un quartier proche de l'aéroport, déserté par la population. En une année à peine, la capitale économique de l'Ukraine orientale, Donetsk, c'est tout de même un centre minier et industriel important, est devenu un foyer de pauvreté. La population locale rend responsable les autorités de Kiev de cette misère, mais constate le journaliste, l'étoile de Moscou a également pâli dans la région et le soutien aux séparatistes russophones ne serait plus aussi fort qu'auparavant.
Faut-il continuer de soutenir les séparatistes ukrainiens et pas russophones pour le coup ? Vous êtes toujours du côté de Kiev là, Philippe Wahl ?
Écoutez, je me suis jamais beaucoup exprimé là-dessus. Je ne suis pas très expert sur cette région. La seule chose que je pense, c'est que on vit dans un monde tout à fait étrange. Ils veulent se rapprocher de l'Europe. Les Européens aujourd'hui sont en train de se demander si l'Europe, cette espèce de continent qui essaye de renforcer sa puissance démocratique, qui est quand même une merveille, faut bien le dire. Enfin, vous en êtes pas en Suisse. Hein,
non, on est un pays bien démocratique quand même. Ouais.
Vous êtes un pays. Non, absolument. Vous êtes un. En plus, j'en suis persuadé. Mais vous n'êtes pas dans l'Europe, je veux dire. Mais je le regrette pour commencer. J'aimerais que la Suisse en soit. Et je me réjouis quand des pays qui veulent vivre sous le régime de l'État de droit se rapprochent de l'Europe. Je me réjouis que l'Europe soit la référence pour ça. Et je porte le deuil de ceux qui meurent pour cette cause.
Justement, à propos d'Europe, alors une des faillites de l'Europe, c'est bien sûr la question des réfugiés, des migrants qui déchirent les Européens. Sandra Timmerly, c'est dans la presse romande cette fois.
Oui, l'idée est d'opérer sur deux axes, stopper les départs et organiser l'accueil. Alors pour stopper les départs, Bruxelles propose la création d'une véritable mission navale. Les navires de guerre européens pourraient capturer et détruire les embarcations avant même qu'elles ne quittent les rives pour lutter contre les nouveaux négriers. Grillés, que sont les passeurs qui opèrent depuis les côtes d'Afrique du Nord. Là, la Russie a déjà annoncé qu'elle s'oppose à cette mesure. Pour la deuxième, qui concerne l'accueil, l'idée est d'instaurer des quotas par pays en fonction du PIB, de la population, du taux de chômage et du nombre de réfugiés déjà installés pour soulager les pays en première ligne, comme l'Italie, Malte ou encore la Grèce. Et là aussi, plusieurs pays, dont l'Allemagne, ont déjà annoncé leur désaccord.
Est-ce que c'est pas la totale faillite de l'Europe, ça, cette question des migrants et ces centaines ou milliers de morts ?
Mais non ! Non, je suis pour qu'on fasse au mieux, pour accueillir au mieux s'il y a des réglementations
qu'on
établies.
Ouvre les portes qu'on... grandes.
Non, on ne peut pas, c'est impossible pour des tas de raisons, mais qu'on les ouvre autant que l'on peut et qu'on les accueille le mieux possible et qu'on leur donne la possibilité de s'élever dans la société, d'acquérir le statut de citoyen le plus
rapidement possible. Et comment éviter
les
morts en Méditerranée ? Comment éviter les morts ?
C'est mon vœu. Pardon ?
Comment éviter ces morts en Méditerranée ? C'est ça la question, Philippe Wahl.
Écoutez, déjà, oui, mais qu'on n'accuse pas les États de droit, une fois de plus, d'être responsables de ces morts. Ce sont des gens qui fuient des dictatures épouvantables. Et jamais un mot sur ces putains de dictatures, ces régimes dégueulasses qui détournent les richesses de leur pays à leur propre profit et qui rendent, qui mettent leur population dans des états de pauvreté.
C'est la France qui est allée faire la guerre en Libye, si je ne m'abuse, sous Sarkozy, Philippe Wahl.
Mais c'est pas la guerre en Libye qui provoque le flot des réfugiés. Ils viennent de bien d'autres pays d'Afrique et ils passent par la Libye. Ouais. Et il y aurait encore Kadhafi, continuerait, quoi qu'on en dise, à passer par la Libye parce que c'est un point de passage. Et Kadhafi en jouait. De temps en temps, il ouvrait les vannes, de temps en temps, il fermait les vannes. Mais c'est pas l'affaire de Libye qui provoque ça. C'est ce qui se passe dans le continent africain. C'est ce qui se passe au Moyen-Orient, en Syrie, parce qu'ils arrivent aussi par la Libye. Et c'est ça qui produit ça. Ce sont des dictatures atroces qui produisent ça, qui détournent l'argent du peuple, les richesses de leur pays, qui leur fait vivre sous des joues d'autorité arbitraires, sous la torture, sous le massacre. Ensuite, c'est des sectes comme Boko Haram, c'est Daesh. Et on dit, c'est la faute de l'Europe. Mais c'est quand même incroyable qu'on dise des choses comme ça. L'Europe a bien des torts, mais pas celui-là. Elle a tort de mal les accueillir, de pas bien s'organiser, de ne pas être assez unis pour faire le travail qu'il faudrait pour les...
Oui, c'est ce que je disais, c'était ça.
Mais bien sûr, mais elle a tort pour ça. Mais c'est un tort secondaire. Le premier tort, c'est ce qui se passe dans ces pays-là. Qu'on arrête de détester cette Europe dans laquelle nous vivons quand même confortablement.
On va devoir s'arrêter là parce qu'il est déjà passé 8 heures, mais on vous accueillerait encore 20 minutes de plus à coup sûr. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci. Et vous confirmez précisément ce que je disais en première phrase d'introduction, c'est un homme en colère que nous avons eu ce matin à notre micro. Vous étiez dans notre studio de Paris, Philippe Val. On vous en remercie beaucoup. Et ça s'appelle « Malaise dans l'inculture ». C'est un bouquin qui sort ces jours-ci. Je vous souhaite malgré tout une bonne journée, Philippe Val.
Merci beaucoup.